Lob und Dank sei dem Herrn.
Loué soit le Seigneur pour sa grâce, pour le privilège que nous avons d'être ici pour écouter sa parole, comme déjà de la bouche de notre bien-aimé frère, nous l'avons entendu. Dieu est celui qui parle. Il accorde sa parole. Il a fait transmettre à son peuple. Il a utilisé par cela les bouches humaines. Pour la bouche humaine, pour nous dire ce qu'il a à nous dire. Et cela reste encore jusqu'à dans notre temps. Ainsi, nous aimerions que tous se sentent bien, vraiment se sentent comme à la maison. Tous ceux qui sont venus de loin et de près, nous avons de nouveau des frères et des sœurs de différents pays ici et nous souhaitons à nos frères les riches bénédictions de Dieu, car tout dépend de la bénédiction de Dieu. Particulièrement des salutations, nous voulons les remettre à ceux qui sont ici pour la première fois et leur souhaiter la bienvenue. Levez courtement les mains ou bien levez-vous. Qui est aujourd'hui pour la première fois ici? Ici, ce sont mes deux jeunes frères de Bremen. Imaginez-vous, à Bremen, ils ont écouté la parole du Seigneur et aujourd'hui, ils sont ici. Que Dieu vous bénisse. Ensuite, nous avons des frères, sûrement de la République du Congo ou bien d'où? D'où en dehors du Congo, parce que c'est là-bas que Dieu a le plus agi, là-bas dans du continent africain. Et nous avons aussi, vous pouvez vous asseoir, bien frère. Nous avons aussi là-bas une sœur derrière, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Aussi une sœur là-bas, une sœur ici, que Dieu vous bénisse simplement. Parmi nous, c'est notre prière. Ensuite, nous avons notre frère Gonga, un homme que le Seigneur a utilisé d'une manière merveilleuse. Où est notre frère Gonga? Peut-être qu'il pourrait se lever pour que tous puissent le voir. Le frère Gonga est là-bas. Il écoute en anglais. Ça, c'est, je pense que c'est le cas. Que Dieu te bénisse particulièrement parmi nous. C'est notre prière, oui. Aussi tous les frères qui sont ici aujourd'hui, de Paris, de Bruxelles, d'où vous venez, de Prague, de la Tchèque, de la Slovaquie, de partout, de la Suisse, de l'Autriche, de l'Italie, de la France, et de la Belgique, et de l'Hollande, de la Guadeloupe sûrement aussi, et de partout. Aujourd'hui, nous avons trois frères de l'Iran ici, de l'Iran, et nous leur souhaitons aussi particulièrement la bienvenue. Nous nous réjouissons simplement de ce que le Seigneur, de toutes les langues, les peuples et les nations, appelle son peuple à sortir et nous avons la grâce d'appartenir à ceux qui sont sortis. Oui, encore aujourd'hui, c'est un jour particulier, un jour historique, un jour qui ira dans l'histoire, un jour de l'Europe unie, un jour dans lequel 450 millions sont venus sous un même toit, un jour particulier. Nous regardons en arrière au passé proche et aux deux guerres mondiales. Nous regardons à ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Une séparation entre l'Est et l'Ouest a eu lieu et partout des bombes atomiques ont été placées et emmagasinées et gardées et par les différentes villes de l'Europe, au milieu de Berlin, et tous ces différents États ont été séparés. Ceux qui connaissent les époques de la guerre froide, dans les années 49, la crise de Cuba, la crise de Berlin, et la construction du mur le 13 août 1900. Et ensuite, toute l'histoire, et ceux qui ont pris part à toute cette histoire, en direct et qui était obligé de traverser les différentes frontières, comment est-ce que moi, depuis 1966, j'ai dû le faire, et particulièrement depuis 67, que ce soit la Pologne, la Tchèque, tous ces différents États et ces pays, j'ai dû, pour les visiter, traverser ces frontières, pour porter la parole du Seigneur. Et ce qu'on a dû prendre comme risque, seulement ceux qui l'ont fait le savent. Mais Dieu a fait grâce à chacun et à toutes ces choses. Et c'est parce que sa parole était tellement précieuse que nous avons porté, sans justement à cause de la parole précieuse, nous avons enduré toutes ces choses sans considérer l'athéisme et le communisme. Et tout ce qui existait. Mais maintenant, tout a changé. Nous avons entendu courtement des présidents d'État. Nous avons entendu différents discours. Les frontières n'existent plus. Et réellement, dans le passé proche, puisque justement, lors de mon trajet vers Bruxelles, celui qui va à Aix-la-Chapelle, il ne voit plus de douaniers, il ne voit plus de maisons de douane, il ne voit plus rien. Celui qui passe de l'Allemagne à la Belgique en arrivant à Aix-la-Chapelle, il ne remarque même plus la frontière et tout ça. C'est comme si ce serait le même pays. Et ensuite, maintenant, c'est la même chose avec l'Autriche, à Salzbourg. Et même le bâtiment de la douane n'existe plus. Il y a seulement en Autriche, il y a seulement la station d'essence. Et on fait que passer. La douane n'existe même plus, le bâtiment n'est même plus là. Et les frontières n'existent plus. Ceux qui veulent aller à Paris, c'est la même chose. Ceux qui veulent aller à Amsterdam, ils ont seulement besoin de passer la 57 et de dire simplement bye bye, Allemagne. Et déjà, on est dans les Pays-Bas. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas longtemps ici, j'ai lu cette parole du prophète Ésaïe, le chapitre 10, n'est-ce pas, où il est écrit. Je voudrais lire aujourd'hui particulièrement quelques versets bibliques, les premiers, justement avant que nous venions à parler de ce sujet, c'est-à-dire de ce qui se passe actuellement, et en fait de ce qui est devenu une réalité devant nos yeux. Parce que ce sont des choses qui sont contenues dans la parole prophétique, dans la Bible, et elles trouvent dans notre temps leur accomplissement. C'est pour cette raison que nous croyons que Dieu, par sa grâce, a ouvert nos yeux, pour justement reconnaître dans quel temps nous vivons et nous sommes arrivés. Et la chose principale en toutes ces choses est notre préparation pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce qui concerne les frontières, c'est ainsi qu'il est écrit, par exemple, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 10. Ici, les textes sont très... Ici, on va courtement considérer à la surface ces différents textes et venir à la parole qui est adressée à nous personnellement pour notre préparation. Mais nous pouvons aussi, justement, ne pas passer sans arrêter à ce qui se passe, à ce qui s'accomplit de manière biblique dans les domaines politiques et religieux et qui appartiennent et qui ont leur place dans la fin des temps. Ici, dans Ésaïe, le chapitre 10, la deuxième partie du verset 13. Ésaïe chapitre 10, la deuxième partie du verset 13. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur les trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid, et comme on ramasse des œufs abandonnés. C'est ainsi que j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Apocalypse chapitre 18, Apocalypse chapitre 18. Ici, le prophète a vu la fin des temps. Dans Apocalypse, le chapitre 18, à partir du verset 2, il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. » Apocalypse 18, verset 2. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. On pourrait même lire le verset 3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Dans le prophète Jérémie, nous lisons seulement deux versets. Dans Jérémie, chapitre 50, Jérémie chapitre 50, peut-être, oui, ici, la moitié des versets suffira. Jérémie 50, verset 37, la deuxième partie du verset 37, et ensuite le verset 38. «
Das Schwert über die Schätze, dass sie der Plünderung anheimfallen. Das Schwert über seine Gewässer,
l'épée contre ses chevaux, donc en français c'est le verset 37 en entier, l'épée contre ses chevaux et ses chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle, qu'ils deviennent semblables à des femmes, l'épée contre ses trésors, qu'ils soient pillés, la sagesse contre ses eaux, qu'elle tarisse, car c'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles. Ensuite, dans Jérémie 51, verset 7, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Donc, il a lu dans Jérémie, chapitre 50, verset 37 à 38, et ensuite Jérémie, chapitre 51, maintenant le verset 7. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Maintenant le verset 13. Toi, ô ville, qui habites près des grandes eaux et qui a d'immenses trésors, ta fin est venue. Ta cupidité est à son terme. Apocalypse, chapitre 17, je lis ces versets avec esprit parce que tout de suite, nous allons lire quelques informations de l'Internet, les nouvelles nouvelles. Dans Apocalypse, le chapitre 17, à partir du verset 1 et 2, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre, le verset 2 d'Apocalypse chapitre 17, se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Je ne sais pas si tous vous êtes attentifs quand les Saintes Écritures sont lues, et est-ce que vous êtes attentifs à l'harmonie des paroles qui sont lues? C'est simplement important, les Saintes Écritures, de ne pas seulement la lire, mais particulièrement d'être attentif aux paroles clés, qui donne l'accès à la compréhension des choses, pour recevoir une vue d'ensemble, de voir ce qui se passe dans le temps dans lequel nous vivons, dans le plan de Dieu, à la fin des temps, qui réellement, maintenant, est en train de se dérouler. Et nous ne sommes pas seulement à la fin des temps, nous sommes réellement à la fin de la fin des temps, et tel que nous l'avons entendu, nous sommes seulement entourés de voisins. Donc nous avons en tant que pays fédéral ici neuf voisins. Aucun autre pays n'a tant de pays voisins. Mais tous sont en paix avec l'Allemagne en fait. La paix est rétablie. Et qu'est-ce qui est écrit dans Thessaloniciens? Dans 2 Thessaloniciens? 1 Thessaloniciens chapitre 5, quand ils diront paix et sûreté, alors la ruine soudaine, n'est-ce pas, les surprendra. Seulement quelques citations, quelques informations de l'Internet. Je ne vais pas comme ça vous ennuyer avec cela, mais j'estime cela important de mentionner quelques informations qui apporte de la lumière sur les prophéties bibliques. Je ne pense pas que nous recevons seulement des informations pour simplement, comme ça, après les avoir lues, devoir les mettre de côté, mais des informations que nous devons observer pour pouvoir réellement savoir ce qui s'accomplit réellement dans nos jours. Particulièrement cette explication du Vatican. Cela a été publié lundi le 12 avril. Et ici, il est écrit, le pape parla. Le baptême, c'est-à-dire par le baptême, nous sommes une partie de l'Église et un grand peuple qui ensemble marche de l'avant, sans frontières, de race et de langue et de culture. Nous sommes un peuple qui, de cette manière, comme Abraham croit, et nous sortons comme Abraham est sorti, et nous nous attendons aux mêmes bénédictions, et cela au milieu de toutes les différentes nations de la terre. Et réellement, des versets bibliques sont utilisés pour appuyer cette déclaration. Le deuxième discours est aussi très, très, très important. Et cela a été prononcé vendredi le 30 avril. Le monde vu de Rome, selon l'opinion de Rome. Et cela vient vraiment de Rome. Et d'observer, de considérer l'état du monde. Selon leur opinion, l'Europe, sans le christianisme, n'est pas à représenter, à imaginer. Une Europe sans le christianisme serait plus une Europe. Et ensuite, nous avons un autre discours, donc avec un titre vraiment très important, le Vatican, le 22 avril, donc l'Europe unie au service des autres continents. Donc, pas seulement l'Europe, mais l'Europe au service d'autres continents, des autres continents. Et ensuite, bien sûr, il est ici démontré comment est-ce que le Vatican voit les choses et aussi fera les choses et comment est-ce qu'elles doivent s'accomplir. Je ne veux pas ici m'arrêter sur ces choses, particulièrement cette partie-là de jeudi, le 29 avril, avec l'accès de la Pologne. Et ça, c'est justement le catholicisme dans sa pluriorité. Et ici, il est écrit noir sur blanc. Jusqu'à maintenant, 184 millions de catholiques étaient dans l'Europe, mais maintenant, dans cette Europe actuelle, il y en a 293 millions en comparaison avec auparavant 89 millions de protestants et maintenant 94 millions de protestants. Et maintenant, ils sont en train de montrer quel devoir à l'Église catholique, à la première place. Et tout est écrit noir sur blanc et le monde entier est inclus dans ce programme. Maintenant, encore quelque chose que l'évêque de Vienne a dit, il vient à mentionner l'histoire et à ce qui s'est passé dans la révolution d'octobre et aussi à ce qui s'est passé à l'est de l'Europe. Et il vient aussi à cette conclusion, je lis, de la séparation des églises avec l'État et entre l'instruction et l'église. C'est ainsi que s'intitule le Varsovic dans cette année. Et c'est ainsi qu'ils disent que l'église d'État, l'État a besoin de l'église et l'église a besoin de l'État et que toutes les institutions, les écoles, tout ça ont besoin des églises et que les églises ont besoin de différentes écoles et des collèges et des lycées, etc. Mais ce qui est plus grave, c'est cette chose suivante ici. Et ça, je vais le lire à la fin. Regardez cette image, le nouveau magazine du Spiegel, du Miroir, dont c'est l'un des plus grands, des plus anciens magazines et des meilleurs magazins de notre pays, montre réellement la prostituée qui chevauche la bête, Le dernier numéro maintenant d'avril 26 2004, on voit une bête avec une prostituée dessus. Si vous lisez cet article, vous devez vraiment poser la question: pourquoi est-ce que les prédicateurs peuvent encore être aveugles? Et la réponse leur est donnée par la presse incroyante. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'onction pour prêter l'oreille à ce que Dieu, par le message de la fin des temps, a adressé à son peuple. Mais cela continue encore. À Bruxelles, la lady, cette dame, c'est-à-dire directement devant le bâtiment du Parlement à Bruxelles. Imaginez-vous, deux hommes sous ses pieds, un homme et sous une jambe, l'autre homme sous l'autre jambe, sous son. Donc, elle est directement devant le bâtiment du Parlement à Berlin, à Bruxelles, pardon, en Belgique. Et je pensais à cette image à Rome où Ignatius, cet homme qui a fondé l'ordre des Jésuites, qui a aussi sous ses pieds, symbolisé sous ses pieds les deux réformateurs. Et l'image montre cela comme ça, mais la chose la plus grave est cela ici encore. Ce que j'avais dit que j'allais lire en dernier. Imaginez-vous, au Canada, dans le pays des possibilités infinies, illimitées, jeudi, en 29 avril, il y a une loi qui a été décrétée et je voudrais lire un peu comme ça en traduisant, c'est en anglais je pense. Le Canada a hier, par une loi, décidé entre d'autres 250 députés, la Bible, ils ont décidé que la Bible est un livre qui, d'une manière particulière, est à l'extérieur des lois de l'État et est contre l'homosexualité. Et imaginez-vous cela devant vos yeux, ce que des hommes ont l'intention de faire. Et ose dire, Dieu, lui, il a le droit de porter un jugement sur sa créature. Et au commencement, déjà, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable à lui. Il n'a pas créé, formé à Adam un deuxième homme. Il a fait sortir d'Adam une femme et il a ramené à lui. Ça, c'est l'ordre divin. Est-ce que Dieu n'a pas le droit dans sa création d'établir son ordre? Il n'a pas le droit de nous dire ce qui est droit et juste. Mais pour que le temps puisse s'accomplir et que l'Écriture puisse s'accomplir, il faut réellement que tout arrive de cette manière, comme c'était du temps de Sodome et Gomorrhe. On ne peut pas s'imaginer les autres autrement.
Et
je suis parfois par d'autres informés en fait de toutes ces choses. Moi, mais j'ai pas le temps de lire tous ces journaux. Ce sont des frères qui m'informent. Mais regardez combien d'hommes se font devenir des femmes et des femmes devenir des hommes. C'est impensable. Le monde est devenu fou. Sodome et Gomorrhe étaient encore mieux. C'est encore pire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la question est à poser. Si nous comprenions par exemple Luc 17, et je vais vous lire pour cela d'abord deux ou trois versets, dans Luc 17, nous devons réellement considérer tout par la lumière de la parole. Et c'est seulement comme ça que nous pourrons voir de la manière juste. Je m'excuse si j'ai un peu comme ça mis trop de temps sur cela, mais c'est important. Dans Luc chapitre 17, ici, il est écrit, dans Luc chapitre 17, à partir du verset 26 et 27, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Luc 17, verset 26. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient. Et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Si quelqu'un qui lit seulement cela comme ça n'a pas encore une image complète avec cette parole de notre Seigneur, on doit réellement aller à Genèse, le chapitre 6. Car de se marier, on l'a fait même avant le temps même de Moïse, et le temps même avant le temps de Noé, et après le temps de Noé, et après le temps de Moïse aussi. Les gens se sont mariés, c'est pas d'aujourd'hui. Et jusqu'à dans nos jours encore, les gens se marient. De se marier, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce qui était extraordinaire et particulier dans les jours de Noé? C'était pas seulement le fait qu'ils se mariaient, et on doit comprendre cela dans les Saintes Écritures. Car cela n'est pas écrit dans un journal et non plus dans un magazine. Cela est écrit dans les Saintes Écritures, car s'il nous est dit que cela va se répéter, il faut qu'on comprenne ce que c'était. Allons dans Genèse, chapitre 6, dans Genèse, le chapitre 6, à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ici, nous l'avons déjà. La lignée de Seth, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, se sont mélangés avec la lignée de Caïn. Car Christ, le Messie, le Rédempteur, devait venir de la lignée pure et pas sortir d'un mélange, d'une lignée mélangée. Et c'est ainsi que Dieu, au verset 3, a dit la chose suivante. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Donc, l'état du temps d'autrefois n'était pas que comme ça en général ils se sont mariés, mais ce qui il s'agissait que ici les fils de Dieu, la lignée de Dieu s'est mélangée, si on veut le dire clairement. Des croyants et des incroyants se sont mariés, se sont mélangés. Et ça, c'est ce qui se répète maintenant. Nous connaissons tous cette histoire, la plupart de nous, ceux qui, par exemple, qui sont plus jeunes, ceux un peu, qui sont maintenant un peu âgés, se rappellent du temps où, dans toutes les églises libres, Rome était une parole qu'on n'écoutait pas volontairement. Quand on entendait parler de l'œcuménie, oh, c'était comme un fantôme. Aujourd'hui, on ne voulait même pas entendre le mot œcuménie. œcuménée. Les églises avaient encore une séparation du monde. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, tous les protestants repartent à Rome. Et pourquoi? Parce que les filles repartent au sein de leur mère. Mais ici est le point important. Sous ceux, parmi ceux qui sont justement dans les différentes assemblées là, il y a des enfants de Dieu parmi les protestants. Et ils doivent maintenant être appelés à sortir. Ils ont le droit à écouter la parole de Dieu. Donc, d'un côté, nous voyons l'union des croyants et des incroyants. Pourquoi? Des croyants avec des incroyants. Pourquoi? Parce que tous disent qu'ils sont croyants. Hein? Les musulmans disent qu'ils sont croyants, les bouddhistes disent qu'ils sont croyants. Tous disent qu'ils sont croyants. Qui est aujourd'hui, qui n'est pas croyant aujourd'hui? Qui? Dites-moi. Et si nous allons dans Jacques, il est même dit que le diable croit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu qui existe? Mais ça, le diable le croit aussi. Et il tremble même. Et ensuite, le monde entier est fait de croyants. Mais si les Saintes Écritures parlent de croyants, s'il vous plaît, alors elles parlent ici d'hommes qui croient ce que Dieu a dit, tel que Abraham a cru ce que Dieu a dit. Et Abraham avait reçu la promesse. Et il croyait les promesses de Dieu dans son époque. Les autres ont cru ce qu'ils voulaient croire. Mais Abraham, lui, l'a cru la promesse de Dieu pour son époque. C'est la même chose encore aujourd'hui avec la semence, la descendance d'Abraham. Nous ne croyons pas comme ça en général, mais nous croyons tel qu'a dit les Saintes Écritures. Et cela pour encore aller dans Jude, le verset 3. Nous combattons même pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Je vous pose aujourd'hui la question. Qui dans le monde, dans tout le pays, dans toute l'Afrique, dans toute l'Europe, qui aujourd'hui oserait lire les versets bibliques que nous lisons d'Ésaïe, de Jérémie, d'Apocalypse, qui oserait le faire? Cherchez un tel homme. Cherchez-le pendant le jour avec la lampe. Hein? Et je vous dis que vous ne trouverez pas ces prédicateurs-là. Vous ne les trouverez plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de révélation. Il n'y a plus la révélation parmi le peuple de Dieu. Parmi le peuple. Mais Dieu révèle à son peuple son nom, sa gloire. Mais à qui est-ce qu'il le fait? À tous ceux qui viennent à lui. Et maintenant, à cette pensée, à la prochaine pensée, donc nous voyons que l'une des choses, c'était le temps de Noé. Et ensuite, nous voyons qu'il y a aussi l'autre chose qui est le temps de Sodome et Gomorre. Et qu'est-ce que nous avons dans Sodome? En général, celui qui seulement va dans Luc, lit dans Luc 17, le verset 29, et 30, non plus, il n'a pas toute une image complète, ça je vais le faire, dans Luc 17, verset 29, nous pouvons lire Luc 17, au verset 29, c'est la même chose, celui qui lit seulement ce verset, il n'a pas une image complète, car il est dit ici, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui était là dans les jours de Lot? Disons cela dans Genèse, le chapitre 19. La grande visite, les deux anges viennent et visitent Lot à Sodome, et voilà, les homosexuels, ces hommes homosexuels de Sodome, se sont rassemblés tous ensemble devant la maison de Lot, et lui ont dit, donne-nous ces hommes, pour que nous puissions nous les saisir. Imaginez-vous une telle chose. Là-bas, un homme de Dieu reçoit une visite du ciel. Car c'est ainsi qu'il est écrit, dans Genèse chapitre 18, le Seigneur, accompagné de deux anges, était venu à Abraham, et ensuite le Seigneur est resté avec Abraham. Genèse chapitre 18, verset 17. Comment est-ce que je pourrais garder caché devant Abraham ce que je me suis proposé de faire? Genèse, chapitre 19, verset 1. Et ensuite, le soir, les deux anges sont allés à Sodome. Ensuite, imaginez-vous, il y a une visite que vous recevez, et ensuite, tout est dans votre ville, mais dans votre village, tout un nombre de personnes entourent votre maison et vous menacent. Imaginez-vous autrefois. Et cela, c'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, tout c'est aussi en public. En public. Regardez aujourd'hui, c'est aussi en public. Ils n'ont pas honte de dire qu'ils sont homosexuels, comme ils n'avaient pas honte de le dire ouvertement du temps de Lot. C'est la même chose encore aujourd'hui. Regardez même des députés, des maires de la ville, tous le disent ouvertement dans les journaux qu'ils sont homosexuels. Ils n'ont pas honte de le faire. Et ici, je lis dans Genèse chapitre 19. Au verset 12, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Donc Lot dit, voici ces deux filles, prenez-la. Ils ont dit, non, nous ne le voulons pas. Donne-nous ces deux hommes. Donc, pas seulement de lire Luc 17 et de lire comme c'était tout dans l'autre, mais de lire comment est-ce que c'était réellement. Comment est-ce que les choses sont dans leur contexte? Qu'est-ce qui s'est passé autrefois? C'est ainsi que nous devons réellement, avec chaque sujet biblique et avec tout, toujours aller aux Saintes Écritures pour voir là-bas la liaison de ces choses et ce qui s'est réellement passé, pour savoir ce que le Seigneur a réellement voulu dire. Et maintenant arrive le point. Il a lu le verset 5. Genèse chapitre 19, verset 5. Donc il y a une grande différence. Que ce soit que nous exposons quelque chose de manière dans l'enseignement ou pas, c'est toujours ainsi. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. L'homme naturel ne peut pas le faire. C'est ainsi. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. L'homme naturel ne... 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et c'est justement dans ce contexte-là des choses que Paul a exprimé des paroles et du conseil du salut de notre Dieu d'une manière si profonde, comme c'est cela ici dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 6, il est écrit. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestiné pour notre gloire. Et c'est seulement après que nous lisons ici, dans le même chapitre, à partir du verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Oui, oui, ce qui nous a été donné de la part de Dieu par sa grâce. Ensuite, l'apôtre continue. Et nous en parlons. Nous parlons seulement de ce que Dieu nous a accordé par sa grâce. Ce que nous avons reçu de la part de Dieu. C'est ce que nous faisons connaître au peuple de Dieu. Et ce que nous avons reçu de la part de Dieu vient et est transmis par la révélation. Personne ne peut de lui-même apporter quelque chose. Non. Et le plus grand homme de Dieu ne pourra pas se retrouver dans les Écritures. Il ne pourra pas voir les contextes des choses si ce n'est qu'elles lui sont révélées par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous ressentons réellement, directement, que nous sommes conduits dans toute la vérité par l'Esprit de Dieu. Pourquoi Est-ce que nous avons la parole de Dieu dans les temps de Daniel et dans Jérémie, dans Ésaïe? Pourquoi est-ce que nous avons toutes ces paroles? Pourquoi est-ce que nous avons les 22 chapitres de l'Apocalypse? Ce n'est pas pour que nous soyons en train de continuer à interpréter, mais c'est pour que justement tous ces différents symboles et toutes ces différentes images dans lesquelles et par lesquelles Dieu a parlé, qu'elles puissent être révélées et que réellement nous puissions comprendre le contexte des choses et comment est-ce qu'elles sont aux yeux de Dieu et voulues de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas assez souvent le dire. Dieu nous a fait grâce dans ce temps. Et nous devons réellement maintenant prêcher tout le conseil de Dieu. Rien ne peut être retranché et ajouté. Tout le conseil de Dieu doit être prêché, mais à cela appartient aussi la partie évangéliste, la partie de l'enseignement et de la partie prophétique. Tout cela appartient au conseil de Dieu et à la prédication de la parole de Dieu. Prenons par exemple ce fait que l'adversaire n'a jamais une propre parole. Il fait qu'utiliser les paroles que Dieu a déjà prononcées, mais il les transforme. Il ne vient jamais avec un propre sujet. Il vient toujours avec un sujet que Dieu a déjà eu. Et il fait que le renverser, le transformer, le tordre. Et nous lisons dans un temps maintenant, je vous donne un exemple. Toutes les églises libres écrivent et prétendent, peut-être qu'on ne devrait pas comme ça être si ouvert et direct, mais ils disent que tous ceux qui prêtent, qui confessent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est de Dieu. Et pour cela, réellement, il y a ces deux versets bibliques, je vais vous le lire, de 1 Jean, chapitre 4. Toutes les églises libres le disent, une parole merveilleuse, dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 15. Ici, il est écrit noir sur blanc. Attendez un moment. 1 Jean, le chapitre 4. Donc, ils prétendent que tout ce verset 15, ils disent que, ils répètent ce verset, tous ceux qui confessent que Jésus est le Christ est de Dieu. Lisons ici 1 Corinthiens 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Une parole merveilleuse, n'est-ce pas? Même qui est nécessaire pour triompher. Une parole qui est nécessaire pour triompher. Celui qui veut triompher du monde, il doit croire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais j'ai encore un verset que je voudrais lire. Disons dans le chapitre 4, ce sera juste, à partir du verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Oui. Maintenant, amen. Oui, je dis aussi amen à la parole de Dieu. Mais maintenant, il y a l'adversaire qui vient et qui prend cette parole. Et nous pouvons aujourd'hui aller d'église en église, d'église libre en église libre, et d'assemblée en assemblée, de l'église luthérienne à l'église calvaniste, à l'église anglicane, à l'église presbytérienne, jusqu'à l'église romaine. Et tous disent, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et maintenant quoi? Ils sont-ils tous de Dieu? Tous le disent. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et si maintenant, des Saintes Écritures, je vous montre qu'avant que tous puissent croire de cette manière, même les démons ont rendu déjà ce témoignage dans les jours de notre Seigneur. dans Matthieu, chapitre 8, Matthieu, chapitre 8, Matthieu, chapitre 8, verset 29. Matthieu, chapitre 8, verset 29.
Kaum hatten sie ihn erblickt, da schrien sie laut.
Matthieu, chapitre 8, verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Imaginez-vous, des démons, des hommes possédés, desquels des démons parlent, confessent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lisez le prochain verset dans Marc, le chapitre 5. Dans Marc, le chapitre 5, ici nous lisons à partir du verset 6 et 7. Marc, chapitre 5, verset 6 et 7. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me détourne pas, ne me tourmente pas. Et ensuite, pour que tout soit reposé sur deux ou trois témoins, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, nous avons encore une fois, dans Luc, chapitre 4, au verset 34, il se trouva dans la synagogue, donc Luc, chapitre 4, verset 33, dans la synagogue, un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre toi et nous, entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. » Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Oui. Alors maintenant quoi? Qu'est-ce que vous dites alors? Ici, la révélation est nécessaire. Ici, la révélation est nécessaire. Pas de confesser de la lèvre, de la bouche, mais la révélation, d'avoir la révélation. Allons avec cela dans Matthieu, chapitre 16, ce verset qui est aussi très, très important, qui nous est connu de tous, c'est-à-dire que la chair et le sang ne t'ont pas révélé ces choses. Marc 16, verset 16, suffirait en fait. Verset 16, Matthieu, chapitre 16, verset 16. Simon Pierre répondit,
haltet ihr mich? Simon Petrus gab ihm zur Antwort.
Verset 15 et 16. Matthieu 16, verset 15. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ici, nous remarquons que c'est la révélation, c'est l'inspiration. Les autres, c'était seulement des démons qui ont répété des choses, mais ils n'avaient pas de révélation. Car ils ont en vain rendu ce témoignage, car ils n'appartiennent pas à ceux qui triomphent du monde, car ils étaient des démons. Et c'est la même chose aussi aujourd'hui. Ils peuvent, du plus grand au plus petit, avec la lèvre, confesser ce qu'ils veulent. Il est nécessaire d'avoir la révélation de Dieu, de savoir qui est Jésus-Christ. Et il a dit que personne ne peut le dire si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est dit aussi, pas seulement ça, hein. Lisons aussi le verset 17, c'est très important. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, une révélation qui vient du ciel, qui vient de Dieu, de savoir qui est réellement Jésus. Christ. Parce que aujourd'hui, tout ce qui est fait comme confession de foi partout, répéter cela des lèvres, et je sais cela parce que justement, avec un grand homme là, j'avais parlé de l'Antichrist et de plusieurs choses. Et il m'a dit, frère Frank, cela n'est pas possible, ce n'est pas possible, car tous confessent que Jésus est le Fils de Dieu. Je le répète encore, une telle confession, d'abord, ne peut pas être juste dans sa forme originale, car toute la chrétienté croit en un Fils de Dieu qui déjà dans l'éternité a été engendré. Et ici, en tant que croyants bibliques, nous croyons que le Père dans le Fils s'est révélé et que le Fils n'était pas déjà dans l'éternité au ciel, qui a été engendré par le Père, comme dans le concile de Nicée, dans la confession de foi de Nicée, cela a été écrit, mais nous croyons qu'à Bethléem, tel que c'est en Michée au chapitre 5 écrit à l'avance, et dans Matthieu chapitre 1 et dans Luc chapitre 1 dans le Nouveau Testament, cela a été confirmé. Donc, de confesser quelque chose des lèvres, ça ne veut rien dire. Et ça, je remercie Dieu de ce qu'il nous a accordé la révélation par le Saint-Esprit pour justement discerner la tromperie religieuse et pour savoir où est-ce que nous avons à prendre notre position spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, le temps est réellement arrivé de parler clairement. Et le Seigneur va toujours devoir dire que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Lors de la dernière tournée en Allemagne que nous avons entrepris, j'ai mentionné cela plus souvent. Si cette parole-là, sept fois dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, est écrite, c'est-à-dire en tant qu'avertissement direct, en tant qu'exigence, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors, nous devons comprendre que le message a dû déjà être apporté d'abord pour pouvoir dire que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Comment on peut entendre si l'Esprit n'a pas parlé? Il faut que le message ait été apporté. C'est peut-être raison que ce que l'Esprit a dit n'est pas venu de l'air, mais il n'a pas comme ça a été inventé par quelqu'un. D'abord, il est écrit à l'ange de l'Église 2. Et ensuite, le message suit tout ce que Dieu a à cette Église de cet âge-là par l'ange à dire. Et ensuite, à la fin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est ainsi que c'est encore aujourd'hui. Nous avons besoin des gens de l'Afrique qui ont la parole et qui disent Amen à chaque parole de Dieu. Et nous, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a visité son peuple et il nous a confié sa parole. Il nous a révélé sa parole et son nom et ses mystères. Et c'est ainsi qu'il nous a placés sur le fondement de la révélation par son esprit, sur sa parole, pour justement nous montrer toutes ces choses, pour que nous ne soyons pas en train de faire des compromis sous le couvercle de l'amour, parce que le monde entier est seulement donné à des compromis. Ils sont ensemble seulement par des compromis. Et vous remarquez où est-ce que leur voyage mène, c'est-à-dire que la domination ne sera pas seulement émise sur l'Europe, mais sur tous les continents, pas seulement sur une église, mais sur toutes les églises, pas sur une seule religion, mais sur toutes les religions, d'une manière que tous réellement, comme par le prophète Daniel, cela a été annoncé à l'avance dans le chapitre 2 et dans le chapitre 7. Et aussi dans Apocalypse chapitre 13, dans la première partie du chapitre, et ensuite aussi dans Apocalypse chapitre 17, et aussi le chapitre 18, cela a été annoncé à l'avance. Quelle constellation à la fin des temps aura lieu? Et ça, nous l'avons très bien ici, par la presse, hein, s'il vous plaît, dans ce magazine-là. L'Église est représentée parfois en tant que femme, n'est-ce pas? Une fois, dans Apocalypse, le chapitre 12, en tant qu'Église, couronnée de la couronne de 12 étoiles. Et les 12 étoiles étaient les 12 anges dans la main du Très-Haut, du Seigneur. Et les sept Les sept étoiles à la main droite du ressuscité. Mais maintenant ici nous voyons ici les douze étoiles. Et s'il vous plaît, cette église maintenant est en train de crier comme une femme qui va enfanter. Et le dragon ne se tient pas n'importe où qu'on assiste des terres devant qui que ce soit, mais devant la femme. Il se tient justement devant la femme qui est en train de mettre au monde le fils qui va perdre toutes les nations pour l'engloutir. Et c'est peut-être maintenant que maintenant, en tant qu'église, nous venons et nous sommes en train, je vous dis que les véritables croyants maintenant passent par une douleur d'enfantement parce que nous avons reçu la parole incorruptible, la parole de Dieu. Et cette parole-là veut naître, veut se manifester. Et je vous dis que pour que la parole devienne chère en nous, cela est lié à des douleurs. Et la deuxième partie est le symbole d'Apocalypse 17. Nous voyons ici cette lady sur la bête et elle chevauche. Elle a bien sûr les rênes entre les mains. C'est-à-dire, en clair texte, sans interpréter, s'il vous plaît. Ça, c'est déjà la signification et pas l'interprétation. C'est-à-dire, la puissance spirituelle chevauche la puissance politique. Et exactement, c'est ce qui se passe maintenant, frères et sœurs. La puissance politique a le dessus sur, et elle tient à sa disposition la puissance politique pour pouvoir l'utiliser dans tous les domaines dans le monde. Je vous dis que sous cela, c'est l'accomplissement des Écritures. Et cela devant nos yeux. Est-ce que vous savez ce que notre Seigneur, aujourd'hui, à cet endroit, et dans ce jour particulier, le 1er mai, qui entre dans l'histoire, dirait, de Luc, le chapitre 4, en relation autrefois avec Ésaïe, chapitre 61, aujourd'hui, en relation avec l'accomplissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Aujourd'hui, l'histoire est faite. Aujourd'hui, s'accomplit des prophéties bibliques. Les frontières sont tombées. Il n'y a plus tout cela. Comme on a lu dans le prophète Ésaïe, au chapitre 45, au chapitre 10, au verset 13. Comme personne ne fait un bruit, tous sont tranquilles et prennent part à ce qui se passe. Il n'y a pas longtemps, le chef d'État de la Pologne a dit, et il a vraiment, en disant cela, frappé le clou et vraiment bien dans son discours. Il a dit que, il a remercié, je crois, le pape, et il a remercié Valessa. Et cela ramène à beaucoup de choses. Cela ramène à la première visite du pape après qu'il avait été élu dans son pays natal. Il y avait 100 000 personnes qui étaient réunies et cet homme savait qui est-ce qu'il avait à remercier, n'est-ce pas? C'est-à-dire les deux, le pape et Vanessa, qui ont fait en sorte que justement le communisme tombe, le pape et Vanessa. Oui, c'est ainsi que c'était. Et maintenant, la domination mondiale est en train de prendre toute sa valeur. Et ça, nous le voyons devant nos yeux. Nous ne sommes pas ici pour faire de la politique. Mais nous ne sommes pas ici non plus pour fermer nos yeux. Car, s'il vous plaît, frères et sœurs, pensez en relation avec la confession de qui est Jésus-Christ, notre Seigneur. Pensez ici aussi à Matthieu 11, au verset 27 et en Luc 10, verset 22. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, et personne qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui il veut le révéler. Il veut le révéler. Vous pouvez lire cela. Tout cela est très important. Il s'agit toujours de la révélation par l'Esprit de Dieu accordée à chacun et agit et créé en ceux qui déjà acceptent la révélation et croient et sont reconnaissants pour ce que Dieu a révélé sa parole. Si souvent, et combien de fois est-ce que nous devrions encore le dire, si des hommes ne peuvent pas croire, en fait, ils font Dieu menteur. Et ça, cela a pour résultat que, en fait, Dieu ne peut pas parler avec eux parce qu'ils le font déjà menteur. Dieu va seulement parler avec nous si nous croyons ce qu'il dit. C'est à ce moment-là qu'il nous le révélera. Si nous ne le croyons pas, Pourquoi est-ce qu'il devrait parler avec nous, sachant que nous le ferons menteur? C'est pour cette raison, encore une fois, revenir à Apocalypse, le chapitre 2 et chapitre 3, pour que nous puissions, des Écritures, comprendre pourquoi, en fait, Dieu a envoyé un prophète, justement, dans cet âge, trompeur, séducteur, mauvais. C'est justement pour, et c'est seulement après que le messager ait apporté le message, qu'on peut dire que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église, à dire. Avez-vous compris cela? Maintenant, le message a été apporté. Et maintenant, le Seigneur aussi a posé la question dans Matthieu 13, verset 51. Avez-vous tous compris? Il s'agit toujours de comprendre. Et ensuite, nous avons aussi le problème à l'intérieur du message, parce que avec ce que le Seigneur a révélé, on l'interprète avec sa compréhension humaine, on le transforme, on change la signification, je pense, à cette première interprétation d'Apocalypse, le chapitre 10, des sept tonnerres. Et là, réellement, il y a un homme de l'Afrique du Sud dit, aujourd'hui, je veux vous dire ce que signifie Apocalypse 10 et avec le lion qui brûle et Apocalypse, etc. Et il dit, vous n'avez jamais vu un lion, un cri de lion. Moi, je l'ai entendu souvent. Et ensuite, il montre et il dit, quand le lion rugit, même le chameau et l'éléphant sont très calmes et tremblent. Et ensuite il dit, mais les lions, la lionne est très calme dans la présence du lion. Elle ne tremble pas. Et ensuite, il arrive à ce point que les sept tonnerres sont là et le lion rugit, mais l'épouse, elle est assise calmement à côté et elle ne tremble pas. Non, avec un lion, on peut aussi, je vous dire, et ça, nous pouvons avec la queue d'un lion, vous savez, attacher un ours. Et ça, nous ne voulons pas le faire. Nous voulons écouter la parole de Dieu dans sa sainteté et qu'elle reste dans sa forme originale, c'est-à-dire là où elle a été écrite et dans le contexte. Et aucun homme pourra m'interpréter la parole de Dieu. Les temps sont passés pour toujours. Et je voudrais aujourd'hui ici y souligner la parole signification, car prochainement, quand je lirai les évangiles, sûrement que je vais plus lire comme ça, il vous a été donné d'écouter l'interprétation. Non, je crois qu'à partir de maintenant, je vais dire, il vous a été donné de savoir la signification de la parole de Dieu. Car l'interprétation peut être une chose dans beaucoup d'autres choses, mais la signification peut seulement une seule chose. Il n'y a pas plus, un verset ne peut pas avoir plusieurs significations. Même les traducteurs de la Bible, les traducteurs ont eu beaucoup de problèmes pour comprendre ici quelle est la pensée de Dieu et pour vraiment traduire dans la pensée de Dieu. De quoi il s'agit aujourd'hui? Il s'agit de l'appel à sortir de tout ce qui ne vient pas de Dieu et de la séparation de l'Église de Jésus-Christ. Car à la fin, il y aura deux sortes d'unions, l'une sous Rome et l'autre sous Jésus-Christ, le chef de l'Église. Tel que notre Seigneur dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 17, « Père, toi en moi et moi en toi, et moi en eux, pour que nous soyons tous un. Pas toutes les cultures ici d'unir, toutes les religions, toutes les cultures, toutes les races, toutes les langues. Il s'agit ici de naître d'en haut par le Saint-Esprit et d'être baptisé dans le corps de Jésus-Christ pour que Christ, la tête, le chef de son corps, puisse être notre chef et que nous soyons membres de son corps, dirigés, conduits par lui. Croyez-moi, toutes ces différentes révélations de la parole, Dieu nous les accorde pour que justement nous ayons de la certitude et sur le chemin sur lequel le Seigneur nous conduit et que personne n'ait besoin de s'ébranler et d'être ballotté par tout vent de doctrine. Si quelqu'un vient et vous dire que tous nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, à partir d'aujourd'hui, nous savons qu'il faut que ce soit la révélation par le Saint-Esprit. Et cette révélation nous est reçue seulement par ceux qui sont dans la présence du Seigneur. Car la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. Même la correction, peut-être que vous, quelqu'un dirait, mais est-ce que cela est vraiment si important? Oh oui, l'une est la vérité et l'autre est l'erreur. Et ce sont deux esprits. Et au commencement était la parole. Et au commencement était la parole. Pas les interprétations. Et la parole est devenue chair. Jamais dans la Bible, il est écrit que Dieu en tant que Père avec le Fils aurait parlé au ciel avec le Père. Et aurait dit, bien-aimé fils, va maintenant sur la terre et rachète mon peuple. Un tel entretien n'a pas existé, il n'existe pas dans la Bible, n'est pas à trouver dans la Bible. Entre Père et le Fils, non. Dans la Bible, il y a seulement l'annonce. Une vierge enfantera et un fils naîtra. Vous l'appellerez Emmanuel. Dans la Bible, il y a seulement l'annonce, un fils vous est né, un enfant vous est né, un fils vous est donné sur les épaules duquel la domination se repose. Et son nom est merveilleux, conseiller, point et puissance, Père éternel, prince de la paix. Ça, c'est la Sainte Écriture. Et ça, nous le croyons, ça, c'est le témoignage sur le Fils de Dieu. Seulement, de lire comme ça 1 Jean 4 ou bien 1 Jean 5, chacun qui, celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, cela ne suffit pas. Nous devons aller au psaume 2, au verset 7. Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Vous devez aller dans tous les autres versets bibliques pour savoir ce que est que le véritable témoignage du Fils. J'espère que vous l'avez accepté et que ça, cela était aussi ce que frère Branham avait placé, devait placer sur le chandelier. Ici, il a mis la limite contre les fausses doctrines sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur la nouvelle naissance, sur la justification, sur la sanctification, sur le baptême de l'Esprit. Tout a été fondamentalement tordu et interprété et falsifié. Nous sommes nés dans un monde, dans un christianisme falsifié. Et c'est pour cette raison que nous devons naître d'en haut, naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Tel que le Seigneur l'a dit lui-même, pour justement être apporté en accord et en harmonie totale avec Dieu et sa parole. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une confession de lèvres, mais le témoignage qui nous est donné sur le Fils de Dieu, déjà devenant de l'Ancien Testament et repris dans le Nouveau Testament, que c'est ce témoignage des prophètes déjà que nous pouvons recevoir par révélation. Avons-nous reçu cette révélation? C'est pour cette raison que nous nous réjouissons de ce que Dieu nous donne de faire la différence des choses et de reconnaître et aussi de croire. Nous croyons comme l'a dit la Sainte Écriture. Ou est-ce qu'une seule fois dans la Bible, il serait parlé d'un Fils éternel? Pas une unique fois, alléluia, seulement du Fils dans lequel, pour l'éternité, nous sommes devenus parfaits, nous sommes rendus parfaits, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu doit nous être révélée dans tous ces détails, pour que nous puissions la recevoir et dans notre cœur la méditer. Et c'est ainsi qu'elle nous sera révélée. tel que nous le croyons. Donc, l'appel à sortir, la séparation, ne touchez à rien d'impire, mais séparez-vous, mettez-vous à part. C'est ainsi que je serai votre Dieu et que vous serez mon peuple. Pas comme ça, une politique religieuse et diplomatie sous un toit politique religieux, mais d'être rassemblé sous Jésus-Christ, le chef de l'Église, un troupeau racheté par le sang de l'agneau, lavé dans la parole de la vérité, en tant que l'Église des nouveaux-nés, qui maintenant écoute ce que l'Esprit dit à l'Église, qui se sépare, qui se laisse mettre à part et qui croit seulement comme le dit les Écritures, et pour ainsi pouvoir prétendre, se préparer et atteindre l'achèvement de l'œuvre de Dieu et prendre part à l'enlèvement. Plus d'interprétation et pas non plus à l'intérieur du message. À quoi est-ce que ça nous sert si, par exemple, de toutes les autres interprétations, nous étions sortis, n'est-ce pas, et que, de nouveau, dans ce message, nous interprétons des citations? Est-ce que Dieu nous a donné assez de grâce pour que cela se passe? Est-ce que Dieu se donne tant d'efforts pour que cela se répète? Ça ne doit plus se répéter, que ceux qui ont été appelés à sortir des interprétations soient encore ramenés dans d'autres interprétations à l'intérieur du message. Mais il faut que, par la parole prophétique, nous ayons la possibilité de comprendre la signification originale de la parole de Dieu. Et alors, quand nous voyons de telles images par la presse et que nous recevons, nous lisons l'Apocalypse, nous n'avons plus besoin de qui que ce soit pour venir interpréter. Même les sept montagnes, les sept collines sur lesquelles cette femme-là trône, tout cela est décrit. Tout est décrit, je vous dis, dans ce livre, l'Apocalypse et la Bible. Honneur, gloire et adoration et remerciement soient apportés à notre Dieu. Lui qui a visité son peuple, qui a laissé paraître la lumière au temps du soir. Lui qui maintenant permet que l'heure de minuit frappe. Et nous marchons dans cette lumière au temps du soir. Et nous avons la grâce de voir sa lumière dans cette lumière. Et nous avons la grâce réellement de passer de révélation en révélation et de clarté en clarté, car l'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. J'espère que tous de cette prédication en moitié, en partie, nous la recevons révélée par l'Esprit de Dieu. Car tout ce que nous faisons est en partie. Il ne s'agit plus ici où une atmosphère est créée. Le temps est passé où seulement un verset biblique est lu et ensuite certaines choses sont dites sur ce verset. Non, ici, il s'agit d'être inclus dans tout le conseil de Dieu en utilisant l'Ancien et le Nouveau Testament, en utilisant les paroles des prophètes et des évangélistes. Et donc, d'utiliser la parole, la partie prophétique, évangéliste et de l'enseignement en utilisant les lettres et les évangiles pour être conduit dans la parole de Dieu. Peuple de Dieu, réjouis-toi, car Dieu t'a visité. Dieu a visité son peuple, plein de grâce. Il nous a visités. Il nous a révélé sa parole. Et par sa parole, sa volonté. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce n'est pas un frère qui a besoin d'enseigner un autre et de dire: est-ce que tu connais le Seigneur déjà? Non. À partir de maintenant, tous, après chaque réunion, tous, nous pouvons aller à la maison. Personne n'a besoin de demander à ce frère de mettre autour de lui quelques frères pour leur expliquer la prédication. Mais sous la prédication de la parole de Dieu, Dieu lui-même nous explique tout. Car cela reste ainsi. La chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est au ciel. Tout est sur le fondement de la révélation. Et toi, tu ne peux pas transmettre une révélation à qui que ce soit. Que Dieu, notre Seigneur, soit loué. De ce que nous voyons encore, l'écriture sur la muraille, et que nous pouvons la lire, et que nous comprenons la signification de la parole de Dieu dans notre temps. Oh, que notre Dieu soit loué pour ce qu'il nous a accordé. Ce qui manque encore, il nous l'accordera par sa grâce. En soyez certains que Dieu achèvera son œuvre de la rédemption dans la septième âge de l'Église, dans le septième âge de l'Église. Comme lors du septième jour, il a achevé son œuvre et il s'est reposé. C'est ainsi que Dieu maintenant achève son œuvre. Et nous vivons dans le temps de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Et nous avons la grâce d'avoir part à cet achèvement de ce qu'il fait dans le présent. Loué soit le Seigneur pour la puissance de son sang, pour la puissance de sa parole, pour la puissance de son esprit. Recevez cette parole et acceptez-la. Et c'est ainsi que Dieu veillera sur sa parole pour l'accomplir en chacun de nous qui avons cru. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange, l'honneur et l'adoration, maintenant et dans toute éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons nous lever et peut-être encore entendre ce cœur, tel que je suis, sans rien de moi. Nous courbons, alors que nous gardons les têtes courbées et que dans la prière nous persévérons, je voudrais demander, est-ce que quelques-uns seraient ici qui par la parole ont été touchés et qui reconnaissent que les portes de la grâce se ferment et que le retour du Seigneur Jésus-Christ est proche? Peut-être que les derniers seront appelés à sortir. Personne connaît le jour et l'heure, mais à chaque fois, nous pensons à la parole de notre Seigneur de Matthieu chapitre 24, le verset 33. Quand vous verrez que tout cela s'accomplit, alors vous savez que votre rédemption est proche. Oui, que le retour est devant la porte. Et aussi, dans Luc chapitre 21, à partir du verset 29, là, il est écrit de la même manière. Quand vous verrez toutes ces choses, levez vos yeux, car vous savez que votre rédemption est proche. Et là, il est aussi écrit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeurent éternellement. Et là, il est aussi écrit, priez pour que vous receviez de la puissance pour échapper à tout ce qui viendra sur la surface de la terre et pour vous tenir devant le Fils de l'homme. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, nous avons entendu, tel que c'était du temps de Noé, le mélange est présent. Les enfants de Dieu n'ont plus d'orientation parce qu'ils n'ont pas la parole prophétique. La parole prophétique est une lumière qui luit dans un lieu ténébreux. Par la parole prophétique, c'est ainsi que Dieu nous révèle les choses qui maintenant s'accomplissent. L'Église, il montre à l'Église la partie de l'enseignant, tout ce qui a à voir à la partie de l'enseignement, des enseignements bibliques, l'enseignement biblique. Et mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons tout par la grâce de Dieu. Nous vivons à la fin des temps et nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques. Ça, ne le disons pas seulement. Cela est ainsi. Cela est ainsi. Car il est écrit ainsi. Et c'est ainsi que nous le voyons accompli devant nous. Peut-être qu'il y en a ici qui voudraient consacrer leur vie au Seigneur et qui, en tant que sauveur personnel, en tant que rédempteur, veut l'accepter personnellement, le Seigneur Jésus-Christ. Ou bien alors, si vous avez une requête ou bien un problème, levez courtement les mains alors que nous courbons toutes les têtes. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Et tous ceux qui désirent vraiment expérimenter le Seigneur a donné des promesses et les accomplit. Le Seigneur a dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Il accorde du repos pour l'âme. Il accorde sa grâce et sa miséricorde. Tout est en Jésus-Christ. Croyez en lui, le Fils de Dieu, qui sur la croix à Golgotha a mouru. En lui qui a versé son sang pour nous. En lui qui a payé le prix, qui a versé son sang et qui a donné sa vie pour que dans son sang nous soyons lavés et que nous ayons reçu la vie éternelle. Seigneur, toi Dieu éternel, nous avons écouté ta parole et nous l'avons prêchée. Je te demande ta grâce que tu puisses avec ton esprit agir sur toute l'assemblée, conduis à la repentance, accorde la reconnaissance du péché, accorde la repentance et accorde la conversion et la nouvelle naissance. Accorde la le Saint-Esprit, accorde le rétablissement, accorde tout ce que tu as préparé pour nous, Seigneur. Que tu puisses agir avec ton esprit, maintenant, ô Seigneur, d'une manière merveilleuse. Que tu puisses agir en tout, chacun qui ont cru, en tous ceux qui sont sauvés et qui sont délivrés, qui sont guéris, accorde à chacun ce dont ils ont besoin. Alléluia, alléluia. Et que tous, accorde à tous la révélation. Donne-leur d'accepter la révélation. Nous te remercions. Nous te remercions. Alléluia. 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 Oh Dieu. Oh Dieu.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Esprit de Dieu. Agis. 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 Alléluia. Rends toutes choses nouvelles. Alléluia. Toutes choses nouvelles. Accorde la conversion, la repentance, le régénérant, la nouvelle naissance. Agis. Accorde des expériences authentiques, bibliques avec toi. Accorde la révélation. La révélation par ton Saint-Esprit. Alléluia. Accorde la lumière. Accorde la clarté. Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia.
Oh.
Alléluia. Alléluia.
Oh.
Alléluia. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia.
Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Singen wir alles neu.
Bien-aimés frères et sœurs, il est écrit réellement dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 3, que celui qui a cette espérance en lui, qui se purifie lui-même, tel qui se purifie tel qu'il est pur. 1 Jean 3, verset 3, il est écrit dans Jean 15, que tout serment qui porte du fruit, il le purifie pour qu'il puisse encore porter plus de fruits. Et notre fruit soit un fruit qui demeure. Qui veut de manière sincère qu'une véritable repentance et des conversions réelles, authentiques, et d'être régénéré réellement, et une nouvelle naissance biblique pour que la vie de Dieu soit en nous et vive par nous. Bien le frère, il ne s'agit pas de la religion. Il s'agit de comprendre qu'au moment où nous croyons et écoutons sa parole, le Seigneur agit. Et ainsi, il dit qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Tel que nous croyons. Et nous croyons maintenant. Et l'Esprit de Dieu est maintenant agissant. Alléluia. Alléluia. Chantons encore.